Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume. Consacré ce soir à l'actualité littéraire avec les porteurs d'eau de la critique, j'ai nommé Olivia de Lamberterie, du L, Nelly Caprielian, des Inrecuptibles, Frédéric Becbédé, du Figaro Magazine et de Biarritz, enfin la région. Hein. Et puis à Arnaud Vivian de Regard, de Transfuge et de la Revue Charles. On parle ce soir des porteurs d'eau d'Atik Raïmi, mais également d'Emmanuel le Magnifique, de Patrick Rambaud, d'Âme, de Tristan Garcia, de Bacchante, de Céline Minard, d'Un étrange pays, de Muriel Barbery, dans Le Courrier de la semaine. Eh bien, à propos du Dernier Roi Soleil de Sophie des Déserts, Victoria Saltarelli s'étonne comment Olivia peut-elle s'extasier sur la bigamie de Jean d'Ormesson s'il avait habité dans le 93 et s'était appelé Ahmed. Vous en auriez fait toute une histoire. Mais chez les gens du 16e, la bigamie devient une qualité, c'est dans l'ordre des choses, un peu comme le golf. Evelyne regrette d'avoir acheté le livre de Sophie des Déserts après nous avoir écouté au Masque et la Plume. Non pas que ce livre soit mal écrit, au contraire, mais ça me gâche mes lectures de Jean Dos qui, croyais-je, me rendait plus intelligente. Je suis donc une maîtresse trompée et je pleure sur mes bonheurs de lecture passés. Jean Dos était donc ce minable séducteur en série, menteur et cupide, évoluant dans ce milieu pourri d'Ancien Régime, au diable les biographies, qui mettent à nu les auteurs, et ça détruit le mystère et le rêve. Ça te fait rire, Fred, hein ?
Bah, c'est ça qui me le rend sympathique.
Et à propos de Sérotonine de Houellebecq, bah, dont le succès est industriel, je pense que entre l'enregistrement de cette émission et sa diffusion, il y aura près de 100 000 exemplaires vendus. Bref, Thierry Auchard de Vernon, bien d'accord avec le masque, Houellebecq se maintient au sommet. Je demeure bluffé par son style. Mais malgré quelques pages magnifiques, la dépression ironique de son vieux sexe flasque finit par engendrer l'ennui, conséquence finalement assez évidente. Madame Crosso, qui nous écoute depuis Hong Kong et depuis des années, a bondi en écoutant nos critiques du roman de Houellebecq. Non, ce n'est pas un livre sur les quotas laitiers, mais comme d'habitude, un livre sur sa bite. C'est lui qui le dit. Et cela devient franchement fatigant, drôle au début, le livre m'est tombé des mains, tant il est lourd et finalement convenu, répétitif. Bref, je suis consterné par ce roman et consterné par votre absence de critique au masque. Christophe B. s'étonne, Arnaud Vivian nous a expliqué que le roman de Houellebecq était une formidable explication des quotas laitiers. Pour information, les quotas laitiers n'existent plus depuis le 1er avril 2015. Donc ce roman explique formidablement quelque chose qui n'existe plus. Hélène, qui habite la basse Normandie, confirme que tout est exact dans Sérotonine. L'hôtel spa au bord du lac de Bagnoles de l'Orne, le chocolatier qui vend des camemberts en chocolat, le restaurant La Rotonde, etc. Mais il y a une inexactitude, il y a deux maisons de presse de la presse à Bagnoles de l'Orne et non pas une seule, ce qui évidemment change tout. Enfin, ah ça c'est pour Arnaud et pour les autres aussi, à propos du Diable emporte le fils rebelle de Gilles Leroy, Arnaud, où tu t'étonnais d'y trouver le mot tortore ou tortoré. Alors là, ça a été un flot ininterrompu de mails, je vais en lire quelques-uns. Annick Lely s'offusque, comment est-ce possible de méconnaître le verbe tortoré ? Je vous conseille de tortorer goulûment un dictionnaire d'argot. Patrice, qui habite Besançon, ajoute la tortore est utilisée dans bien des pages par Frédéric Dard. À ce titre, il n'est pas si incongru aux côtés de termes tels que fucké, qu'Arnaud Vivian a bien voulu le penser. Tortorer, nous écrit Anne-Marie Duchemin, veut tout simplement dire manger. moi qui vous adore, qui vous écoute en couple, à l'heure de la bectance, avant d'aller fucker, je vous pardonne, mais de grâce, redescendez sur terre. Et Michael Moretti de Lyon, pour qui, ça c'est assez drôle, sérotonine, manque de cachet, conseille à Vivian de conjuguer l'argot tortoré comme manger chez Simonin ou Le Breton et les films dialogués par Audiard. Et puis Sylvie Langrenet en appelle pour finir au frère Jacques. Nous sommes sortis avec du fric plein nos chaussettes. Ce vieux coffre-fort était bourré comme un baron. Il y avait de quoi s'offrir de la tortore et des fillettes. Voilà pour le courrier de la semaine. Maintenant, tu sais, à la fois fucké, tortoré.
Et vous aussi, hein, parce qu'on était quatre, c'est et vrai. Personne ne connaissait.
C'est vrai. Allez, on commence avec Emmanuel le Magnifique de Patrick Rambaud chez Grasset, après avoir tenu en 5 volumes la chronique du règne de Nicolas Ier, comprenait Nicolas Sarkozy, et puis celle de François IV ou François le Petit, comprenait François Hollande. C'était un peu plus court, hein, et moins inspiré. L'auteur de La Bataille, prix Goncourt 97, tient donc la chronique de la première année du règne de Macron, Emmanuel le Magnifique, que Rambaud tient pour le prince des Jésuites. Il commence par raconter le lancement de sa campagne En Marche, la chute de M. Fillon, duc de Sablé, la victoire d'Emmanuel, son arrivée au château en l'an de grâce 2017, au bras de Brigitte, baronne d'Ozière. La suite, eh ben, on la connaît, la nomination à Matignon d'Édouard Philippe, monsieur Philippe, duc du Havre, désormais premier valet de chambre. Ses relations musclées, je parle de celles de Macron, avec Buffalo Trump et avec le tsar Vlad le Terrible, sans oublier les hommages rendus par lui à Saint-Beltrame et à monsieur Hallyday. Ce volume s'arrêtant, il faut le préciser, c'est important, avant l'apparition du chevalier Benalla. Rappelons que Patrick Rambaud, pour qui la Ve République s'apparente plutôt à l'Ancien Régime, a écrit son livre bien, bien avant que les Gilets jaunes ne comparent Emmanuel Macron à Louis XVI. Bref, et c'est toujours le même système de la parodie de Saint-Simon. Ça vous amuse, Arnaud, ça t'a amusé?
C'est un styliste absolument incomparable pour avoir créé comme ça cette langue qui rappelle celle des librettistes du XVIIIe siècle. Il y a vraiment dans la facture, dans la tournure de la phrase, quelque chose qui relève du grand art dans un pastiche finalement assez difficile. Là où je suis moins convaincu, d'abord parce que quand même, on a hâte de lire le tome 2, vu que ça s'arrête avant l'affaire Benalla et tout ce qui est en train
avant
de se
les
passer,
jaunes.
Qui donne, il faut bien le dire, une nouvelle image d'Emmanuel Macron. Parce que il a beaucoup enquêté, c'est un véritable journaliste, Rambaud, il fait le boulot. Et d'ailleurs, toujours au détour du phrase, on trouve une information dont on sait qu'elle est vraie, parce que Rambaud vérifie.
Il le fait tous les jours, voilà. Il prend des notes.
Mais par exemple, à un moment, il parle de George Washington, parce que Emmanuel Macron a été faire un voyage aux États-Unis, il visite la maison, et Rambaud rajoute que George Washington faisait pousser du cannabis dans cette maison. Et donc là, on se dit, c'est quand même extraordinaire, les informations de Rambaud. Je suis sûr que c'est vrai. C'est extraordinaire. Je ne savais pas que George Washington faisait pousser de la beuh quand même dans son jardin.
Ce que ne fait pas Trump. Hein,
et ni Macron, hein, de toute évidence. Parce que sa gestion de la crise... il ne gérerait pas la crise comme ça s'il fumait un ou deux pétards par jour, à mon avis. Là, je crois qu'il en aurait bien besoin, là, hein, de toute évidence. Et alors, ce qui est un petit peu... Ouais, c'est un peu ça qui est dommage avec Rambaud, c'est que l'interprétation qu'il donne, alors il appuie beaucoup sur le fait qu'il a été élevé chez les jésuites et que notre
c'est pape... récurrent tout au long du volume.
Voilà, le pape François est par ailleurs lui aussi un jésuite et Rambaud est lui aussi un jésuite. Donc il a été éduqué chez les jésuites, Emmanuel Macron. Si c'est le cas, franchement, je préfère mettre mes enfants à l'école publique, hein, de toute évidence. vu le résultat du jésuitisme actuel d'Emmanuel Macron, franchement, l'école publique, c'est super. Et donc, on est quand même toujours dans la même version avec Rambaud, qui a été beaucoup livré par la presse du jeune littéraire, enfin, qui a quand même raté deux fois Normal Sup, au lieu d'être écrivain
préféré...
Ça,
c'est pas un argument, hein.
Du jeune littéraire, voilà, qui a lu Les Nourritures Terrestres, qui est quand même, ça, effectivement, c'est une sorte d'exploit, d'une certaine manière, mais qui a raté deux fois Normal Sup... Quand même, hein, aujourd'hui, j'ai essayé de relire.
Aujourd'hui, c'est démodé,
mais. C'est quand même pas fastoche.
Enfin, bref.
C'est mon avis.
C'est des faux monnayeurs.
Et qui, au lieu de devenir écrivain, a préféré devenir banquier, ce qui est quand même assez rare, finalement, dans une espèce de vocation rentrée. C'est rare que vous choisissiez la banque à la place de la littérature. Ah. Donc, il est quand même encore là, dans l'image du Macron écrivain, qui, à mon avis, ne tient pas la route.
Olivia.
Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup moins bien que les volume précédent, oui. Alors peut-être parce que d'abord, on a beaucoup lu de portraits de Macron. Comme il était nouveau, c'est vrai qu'on a On a vraiment, peut-être, les journalistes ont abusé de portraits. Donc cette histoire, on la connaît déjà beaucoup. En plus, effectivement, elle prend tout d'un coup un coup de vieux terrible à cause de la situation actuelle. Et puis moi, je pense que Rambaud aime trop Macron.
On sent qu'il ne le déteste pas, en tout cas.
Il ne le déteste pas. Et en fait, il ressort.
C'est la période de l'état de grâce en même temps. Hein.
Certes, mais finalement, je trouve que ton résumé est bien plus brillant et bien plus drôle que le livre en lui-même, qui n'est pas très drôle. Et il redevient méchant quand tout d'un coup, il se remet à parler de François Hollande, qu'il appelle François le mollusque. Ou alors, le 1er décembre, jour exceptionnel, François l'indécis prit une décision. Il devient aussi très méchant quand il parle de François Fillon, que son équipe, il faut le savoir, appelait Pignon, en référence au dîner de cons, avec, je trouve, quelques anecdotes absolument stupéfiantes sur François Fillon, notamment le lendemain des élections primaires, lorsqu'il l'emporte, il part en vacances faire du ski, et personne n'a de ses nouvelles pendant 15 jours. Là, effectivement, François Pignon peut-être était justifié. Un truc dingue aussi, il tire la galette des rois le 24 janvier, et il y a,
c'est un peu tard déjà. Hein.
Oui, c'est un peu tard, mais surtout ce qui est fou, c'est qu'on ne sait pas qui gagne la fève, mais la fève, c'est un chat noir. Est-ce que vous avez déjà vu un chat noir dans une galette? Et un autre truc qui m'a beaucoup amusé, c'est quand il doit rendre les costumes qui lui ont été gracieusement offerts, il rend pas les bons, il rend des vieux costumes. Non mais. Tout ça est amusant.
Mais comme dit Arnaud, c'est quand même très bien informé.
C'est très bien informé. Ouais. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que je trouve que Rambaud est féministe. Il n'y a pas un mot contre Brigitte Macron, et c'était facile de se moquer. Il y a une page sur MeToo absolument géniale, je trouve, où il dénonce le patriarcat de la société dans le monde entier. Et après, il y a une phrase qui annonce les gilets jaunes. « Voit-on une mouette grelotter sous la pluie, l'eau glisse sous son plumage blanc ?» Macron était ainsi, il en était ainsi des colères populaires sur le veston du prince.
Voilà. Oui, c'est pas mal. Nelly.
Ce qui m'a toujours intéressé, c'est aussi ce qui m'a un peu laissé sur ma faim, comme tous les volumes, hein, c'est la distance. C'est-à-dire le mieux, c'est la distance. C'est-à-dire cette espèce de langue, justement, ancien régime. On pense, avec le premier, on a immédiatement pensé à Saint-Simon. Ce genre qui ne se fait plus du tout. Et je trouve que ça met à distance, même si là, c'est très proche, ça met tout ça à distance temporelle, comme si ça s'était passé il y a très longtemps dans l'histoire de France. Et on se dit, non, mais c'est pas vrai. Mais comment les gens supportaient ça? Et justement, je pensais à Olivia quand
comme
tu parlais
jamais
de
la République
Fillon,
n'était plus monarchique, ça
absolument
prend son sens aussi.
Mais du coup, et tout d'un coup, on se rend compte que, mais non, enfin, il nous parle évidemment de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on a vécu il y a un an, de ce qu'on a vécu il y a encore 6 mois. Donc c'est là sa force, je trouve. C'est en rendant tout en apparence historique et désuet, en fait, il nous choque encore plus par les choses totalement absurdes et aberrantes qu'on avale un peu au fil d'actualité le plus souvent. En revanche, alors la distance aussi, je disais, comme quelque chose qui plombe un peu, je trouve, le travail, c'est que du coup, ça arrive un peu, toujours un peu tard. Hein. Alors moi, j'ai toujours du plaisir à le lire. Là, je l'ai trouvé quand même drôle. Enfin, il y a une tournure, il y a une élégance du style. Enfin, il est assez génial pour ça. Mais avec tout ce qui s'est passé depuis, justement, là, c'est un peu... Oui. Bon, d'accord. Et là, je me suis dit, au fond, il travaille pour quoi ? Je pense qu'il travaille pour une forme de postérité. Là, c'est quelque chose qu'il veut laisser. C'est une œuvre.
Je crois pas, parce que c'est pas le tempérament de Rambaud. C'est plutôt.
C'est peut-être pas son tempérament, mais je me suis dit, est-ce que c'est pas ça qu'on relira ? Quel outil pour relire l'histoire de France des derniers 10 ans, par exemple, en s'amusant, en n'étant pas dans des trucs non plus super sérieux, mais en étant, comme disait Arnaud, toujours extrêmement précis, extrêmement juste. Ouais. Je pense que ça risque de rester, finalement, ce que fait Rambaud. T'es
Frédéric,
d'accord ?
Je suis tout à fait d'accord. Je suis totalement fan, parce que je trouve qu'il
Tu parles de la série ou de celui-là ? De la série.
J'aimais beaucoup la série, et je pense que là, en plus, il a un vrai personnage de roman, mais un vrai. C'est-à-dire que c'est Rastignac, Macron. C'est le type qui épouse la femme du banquier pour trouver le pouvoir et puis qui réussit par la banque. Et c'est aussi Julien Sorel, ça a été dit souvent, mais là, on sent que Rambaud jubile d'avoir trouvé un véritable personnage de roman classique du 19e, quoi. Le jeune homme arriviste qui va conquérir Paris, et il y arrive. Et donc tout est vrai. Je pense que c'est le meilleur livre sur Emmanuel Macron à ce jour, mieux que les biographies qu'il y a pu y avoir. On apprend plein de choses. Alors, par exemple, saviez-vous que l'anecdote sur les chaussures marron Il arrive avec avec des chaussures marron à la banque Rothschild et David de Rothschild lui dit non, c'est pas possible, il faut des chaussures noires, il faut le look de la City à Londres. Donc il change de chaussures tout de suite, il s'adapte, en même temps il a un côté, c'est vrai, séduisant parce que c'est le jeune homme de province ambitieux et
qui va toujours avec des vieux, c'est ce que raconte très bien
Rambaud. Paul Ricoeur,
charmant pour madame
Mais pas simplement Macron. Elle, aussi les gens qu'il fréquente et qu'il admire parce qu'il est jeune. Et c'est un principe. Rambaud dit quelque chose de très fort, je crois. Il dit, c'est un vrai solitaire. Il est totalement seul. Et on voit bien que c'est aussi une des raisons du problème actuel. C'est
parce qu'à force de ne pas supporter la concurrence, il élimine
aucun ami
autour de lui.
Je pense qu'il a perdu son dernier ami avec Benalla, et c'est pour ça que c'est un vrai problème.
Non, mais je trouve qu'en plus de ça,
en même temps, sur vous,
des amis comme Benalla.
Il faudrait dire un truc sur aussi le pastiche. Depuis la mort de Jean-Louis Curtis, Patrick Rambaud est le meilleur pasticheur français. Il a fait Marguerite Duras, qui était quand même extraordinaire.
Qui était à mourir de rire. Et Roland Barthes, sans
peine. Même son Goncourt, La Bataille, c'était un pastiche de Balzac.
Oui.
Et je crois qu'imiter les grands auteurs, c'est pas facile du tout. C'est la preuve qu'on est un grand écrivain. C'est pour moi le premier roman, c'est Don Quichotte, le premier roman de disons moderne, c'est Don Quichotte qui est un pastiche de roman de chevalerie. Donc l'origine même du roman, c'est le pastiche, et donc ceci, c'est pas seulement un pastiche, c'est un très grand roman.
D'ailleurs, je me demande si c'est pas lui qui a écrit le dernier Houellebecq.
Emmanuel le Magnifique, Patrick Rambaud, c'est chez Grasset, Bacchante au pluriel, le nouveau et bref roman, 110 pages. Elle ne nous avait pas habitués à ça, chez Rivage, de Céline Minard, la romancière de Faillir être flinguée, prix du Livre Inter 2014. Et Bacchante, c'est un livre de braquage, comme on le dirait d'un film, dans sa version, disons, asiatique et alcoolisée. Alors qu'un typhon menace la baie de Hong Kong, la brigade de Jackie Chan, armée de gaz lacrymo, encercle depuis 59 heures une cave à vin très sécurisée, et dont Frédéric doit être jaloux, installée dans un ancien bunker de l'armée anglaise, propriété d'un ancien diplomate sud-africain qui s'appelle Kutzer. Je pense qu'il y a une allusion à Kutzer. Et bref, dans cette cave riche de 100 000 bouteilles, estimée à 350 millions de dollars.
Là, ça fait vraiment...
Ça fait rêver, hein.
C'est pas le prix qui est plus
trois braqueuses de choc qu'on dirait sorties d'un film de Tarantino en escarpins. Et munis d'explosifs, la bombe, la brune et la clown ont donc pris les grands crus en otage. Frédéric, ça t'a...
Extraordinaire livre. Franchement, je suis très, très admiratif, très épaté. On se souvient que la définition de la beauté pour les surréalistes, c'était la rencontre d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection. Ça, c'était au début du XXe siècle. Et ben, au début du XXIe siècle, c'est la rencontre d'un escarpin Jimmy Choo avec une bouteille de Romane Conti 69 dans une cave dans la baie de Hong Kong. Pour moi, c'est la définition de la beauté aujourd'hui. Céline Minard, elle a fait toutes sortes de genres. En fait, elle aime se frotter aux genres.
Un gros western.
Oui, elle avait fait un western, une science-fiction, un roman de médiéval un peu, un autre roman où c'était survivaliste dans la montagne, post-apocalyptique un peu. Et puis là, c'est le roman de braquage.
Mais j'ai pas le sentiment qu'elle y croit vraiment à son braquage.
Ah, moi, je trouve que ça marche bien. C'est fait comme si on regardait une chaîne d'infos en continu à l'extérieur d'un braquage. Donc, on ne sait pas tout de suite ce qui se passe. On a un peu des informations par bribes. Et puis, à un moment, on rentre dans le bunker. Et là, c'est très, très drôle. Et puis, je trouve que cette métaphore de, comment dire, dénoncer l'absurdité de notre monde en montrant qu'il peut y avoir des millions de dollars dépensés juste pour des bouteilles de vin, elle parle très bien du vin, d'ailleurs, du terroir, du goût, de la saveur et tout ça, mais avec cette absurdité qui est que ça vaut le prix d'une banque, quoi. Elle tourne vraiment en ridicule notre monde avec un livre qui se dévore, qui est entièrement réussi.
Qui se boit même. Arnaud ?
Oui. Oui, mais comme vient de le dire Frédéric, c'est quelqu'un qui pastiche, elle aussi, elle pastiche les genres. Elle, c'est les genres qu'elle attaque, donc le western, effectivement, le roman qui était plutôt nature writing, finalement, le roman dans la montagne, que j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé le western aussi. Là, je suis un peu déçu parce que une fois, le livre est très court et le résumé, finalement, est pratiquement la synthèse du livre. Il n'y a pas... Moi, j'adore les films de braquage. J'adore Ocean Eleven. J'adore Insaisissable 1, 2, produit par David Copperfield. J'adore ça. C'est vraiment ce qu'elle essaye de faire. Mais justement, ce qui est formidable dans ces livres, c'est d'abord un rapport au temps, C'est-à-dire qu'on voit la machinerie se mettre en place de manière très précise, comme ça, ce qu'elle ne fait pas du tout. C'est-à-dire que là, on est justement au cœur de l'action. Et du coup, à part un détail que je ne vais pas révéler, parce que c'est la seule chose qui est vraiment chouette, c'est comment elles ont réussi à s'introduire dans cette cave, évidemment hyper protégée, qui est le seul détail qui relève effectivement de l'idée de scénariste de film de braquage. Mais sinon, j'ai envie de dire, Dieu sait si je ne suis pas un apologiste du travail, mais elle n'a pas bossé, elle n'a pas...
C'est un peu la bande-annonce d'un film qu'on aurait aimé voir.
Exactement.
On va parler d'autres livres où ils ont trop travaillé. Moi, je trouve que c'est pas mal aussi quand on est dans les livres.
Ça, ils ont trop travaillé.
Encore une fois... C'est pas le genre de faire l'apologie du travail.
Mais non, mais c'est insupportable.
Mais il faut reprocher à un écrivain de travailler.
Mais on peut aussi reprocher à un écrivain de tout mettre sur la page et de ne pas faire le tri.
Ce qui est très intéressant, c'est que par rapport à ses livres précédents, et notamment le western qui était totalement prodigieux.
C'était formidable.
Ah oui, incroyable.
Ça s'appelait Faillir être flingué.
Elle reproduisait. Elle avait vu les images de western, de films, et qu'elle reproduisait ça à l'écrit de manière totalement exemplaire. Là, je trouve qu'il y a un laisser-aller, y compris dans le détail, dans la phrase, dans les personnages. On les voit pas. Les filles, on les voit pas vraiment.
Je suis pas d'accord.
Et donc,
les vins, on les sent pas vraiment.
C'est ironique.
Le rapport au vin, il est un peu...
Quoi?
On peut pas laisser dire ça.
C'est ironique à la façon d'Echenoz. Tu vois, c'est comme Jean Echenoz.
Echenoz, justement, il est vraiment dans le détail et l'ironie. Il y a pas tellement d'ironie, là.
On va boire un bon vin. On va mettre nos Jimmy Choo. Non, je suis d'accord avec Arnaud. Je suis désolée, Frédéric. Et pourtant, Dieu sait que j'aime beaucoup Céline Minard. Oui, tu es en plus à côté de moi. On dirait Guignol.
Mais comme d'habitude, non, vous êtes toujours à côté.
Je trouve que elle l'a joué trop expérimental. Voilà. Et je pense que ça n'a pas marché. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Je pense que
pour une fois qu'un livre, on a envie de le finir.
Et moi, j'ai pas du tout eu envie de le finir.
À 110 pages,
c'est court.
Je me disais, mais finis-le. Elle a quand même essayé de faire quelque chose. Ce n'est pas juste un simple roman de braquage. Elle essaye d'être intelligente et d'être un écrivain français contemporain. Et je pense que ça n'a pas marché. Et pour moi, ça m'a fait un peu l'effet du Dariussecq. Elle avait écrit un roman futuriste où il y avait des clones et je me disais, et j'avais dit ici d'ailleurs, non pas que je me parle juste à moi, je parle aussi ici, et je me disais, et je vous disais, je vais y arriver. Hein,
Ça m'a envie de lire le livre.
J'ai peut-être bu trop de vin avant. Non, je rigole. Qu'à un moment donné, il y a cette crainte chez les auteurs français d'aller, dans le roman de braquage. Et là, ce côté j'y vais pas, je suis quand même beaucoup plus intelligente que mon sujet, je vais vous montrer comment on peut faire de là une forme de poésie
mais non,
et tout ça.
Mais non,
il y a un côté troisième degré porte à gauche
qui n'arrive à rien. Voilà. Elle n'arrive en fait à rien avec ce texte. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire, ni où elle va, ni. Et j'ai pas réussi à le finir, je suis désolée.
Et Olivia alors?
Alors moi, je n'aime pas du tout Céline Minard. Je crois que j'ai assassiné tous ses livres ici. Et d'ailleurs, elle m'a fait une dédicace très gentille. Donc, je me suis dit qu'elle était très élégante ou alors qu'elle n'écoutait jamais le masque. Je ne sais pas. Et j'ai trouvé ça super.
Merci, Olivia.
C'est formidable.
C'est très, très bien. Dédicace gentille. Ouais.
Faut faire des dédicaces, alors. Non, ça tient à ça.
Non, j'ai trouvé que le livre, ça marchait très bien parce que la machinerie romanesque était nickel. Il n'y a pas un mot de trop. C'est tendu comme un arc. Les personnages sont formidables.
L'intrigue n'est pas...
Mais l'intrigue, c'est drôle, c'est très brillant. Il y a des trouvailles. Moi, je suis pas du tout une connaisseuse de vin, mais la manière dont le propriétaire de la cave devient fou quand il entend les filles qui font un truc qui m'a fait beaucoup rire. Elle joue au bowling avec des bouteilles à je sais pas combien de $1000. Donc le mec il devient fou. Il rentre tout nu.
Il y a de quoi. Hein.
Il rentre tout nu pour voir qu'il n'ait pas d'armes sur lui.
Exactement. Donc les scènes sont aussi vraiment, je trouve, très jubilatoires, très drôles. Et j'aime bien que justement ça s'arrête de manière assez abrupte. Il n'y a pas de morale. Il n'y a pas d'explication. C'est vraiment juste un livre comme une sorte de paire de claques. Je trouve qu'il y a...
Je trouve que c'est une photographie d'une époque.
Et en
franchement,
plus, c'est un livre
qui montre bien la folie du monde actuel, la spéculation financière.
Ah ben, ça dit quelque chose sur ce monde
que
fou.
Que les vins sont chers, oui, pas les du grands tout. Cru sont chers. Oui.
Non, mais
c'est un scandale, monsieur.
Non, ça dit quelque chose sur l'obsession du monde de manger, de boire. Parce que avant le braquage,
non,
le gars, il avait
sur
organisé
le vin,
un dîner quoi. Presque parfait pendant le typhon avec des milliardaires qui venaient boire pendant que le monde était déchiqueté. Non, ça dit quelque chose sur l'immoralité du monde, je
trouve.
Je veux
dire, c'est un livre très politique, en fait.
Oui.
C'est un livre assez politique.
Oui.
C'est une farce. Hein. Oui. C'est une blague. Moi, j'aime bien les blagues.
C'est situationniste.
Oui, c'est situationniste. Je suis d'accord avec Frédéric. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre.
Je t'aime, Olivia.
Je lirai le prochain.
Tu auras une prochaine dédicace merveilleuse. Bacchante, c'est de Céline Minard. Un peu d'alcool, on peut dire encore, avec Un étrange pays chez Gallimard, le nouveau roman de Muriel Barbery, l'auteur de L'élégance du hérisson, qui a appris le goût du fantastique depuis La vie des elfes, dont on avait parlé avec un peu de... Comment dire, de circonspection.
D'héroïne.
Et en 1938, au cours de la sixième année d'une guerre conduite par un Italien, un général et un lieutenant espagnol, après avoir bu un champagne inconnu même de Frédéric Becbédé, accèdent à un monde inconnu où ils sont guidés par le bien-nommé Pétrus, qui aurait pu se retrouver dans la cave de Hong Kong.
Hein. Il y en a dans le livre
oui.
De Céline Minard.
Et celui-là aurait pu se retrouver. C'est ça que je voulais dire. Un monde brumeux, peuplé d'elfes, où on aime la poésie, la calligraphie, le thé gris, et qui serait évidemment tout à fait merveilleux, n'était le conflit qui continue de faire rage et qui annonce la grande bataille finale. Bref, on est plus près du conte que du roman, comme le précédent. Et en tout cas, très loin de L'élégance du hérisson. Ce Pétrus-là, il t'a enivré, Olivia ?
Vous savez, Muriel Barbery, à chaque fois qu'on en parle, tout le monde dit elle est très courageuse parce qu'elle aurait pu refaire indéfiniment L'élégance du hérisson, avoir d'autres succès. Et puis non, elle est très courageuse de faire d'autres choses. Moi, j'avoue que je préférais qu'elle soit un peu lâche et qu'elle refasse L'élégance du hérisson. Parce que là, elle a refait Les elfes. Alors, en fait, c'est de la fantaisie. Moi, je n'ai jamais lu de fantaisie. Je n'ai jamais lu Le Seigneur des Anneaux.
C'est la version un peu japonisante, hein.
Moi,
un peu asiatique, disons. Oui.
Comment vous dire ? J'ai fait un énorme effort intellectuel pour essayer de comprendre comment ça marchait, qu'est-ce que c'était. Le coup du champagne inversé m'a bien plu. Elle boit du champagne inversé, c'est du champagne où au lieu de monter, les bulles descendent. Mmh. Et ça fait un effet...
Boris Vian, un peu.
Ça, oui, mmh, voilà, ouais. Il y a un côté un peu Boris Vian, ça m'a bien plu, ça.
Ouais. Le piano, et puis, un peu l'herbe rouge, un peu, des trucs comme
après,
ça.
Après, ouais. J'ai été jusqu'à la page 150, je dois le dire, après je me suis arrêtée. C'est en fait comme un conte pour les enfants, très édifiant, où les hommes sont très valeureux, les femmes sont belles comme dans des rêves, et puis le bien affronte le mal, et le bien est mieux que le mal. C'est à peu près tout ce que j'ai compris. Si, j'ai regardé, j'ai bien aimé les elfes. Il y a des elfes. Ah non, ça, j'ai trouvé que c'était assez beau. Ils changent. Alors, par exemple, ils ont une tête de cheval.
T'as fait une gentille dédicace, je suis sûr, non ?
Pas de dédicace.
Non, pas de dédicace.
Pas de dédicace. Donc là, je suis totalement vierge avec, dans mes rapports avec Muriel Barbery.
J'en ai une, moi.
Ah bon. Eh oui. Alors peut-être elle se souvenait de ce que j'avais dit du pays des elfes. Non, honnêtement, je ne comprends rien. Ça ne m'intéresse pas. Ça me semble... très enfantin, très naïf, très innocent, mais j'ai pas du tout envie de dégoûter les gens qui aiment. Voilà.
Nelly.
Oui, bah écoute, c'est un trip, quoi. Muriel Barbery, là, je crois que soit on prend ce qu'elle prend et on arrive à suivre.
Du champagne inversé.
Du champagne inversé.
Et du thé gris.
Ça doit être un code.
Ah, le thé gris a l'air dégueulasse.
Quelques champignons hallucinogènes. Et son trip, elle, c'est les elfes. Voilà. Et je pense qu'elle va continuer. Elle va. Et j'admire ça. J'admire, je dirais pas le courage, mais en tout cas, qu'elle soit fidèle à elle-même. Elle s'intéresse aux elfes. Elle écrit sur les elfes. Moi,
ils
le problème,
c'est
qu'ils
se transforment. T'as vu,
voilà.
Hein.
Mais à part ça, je respecte ça. On vit dans des mondes totalement différents. Ouais. Muriel Barbery et moi. C'est tout.
Frédéric.
Je pense que la Barbery, il faudrait la surnommer la Barbe, hein, parce que c'est quand même pas possible. Oui, il y a un problème de drogue chez Gallimard, c'est clair, on va parler de Tristan Garcia après. Il semblerait qu'il y ait un camion-citerne.
Non,
il y a un camion-citerne de LSD qui est garé rue Gaston Gallimard.
On peut pas comparer les deux livres.
Moi,
du
je
tout.
Dis, je veux.
Alors là, pas du tout.
Non, mais je veux avoir accès au même produit que les auteurs pour pouvoir comprendre leurs livres. Parce que pour l'instant. Alors, il y a des questions importantes qui sont posées dans le livre. Les elfes ont-ils traversé le pont des brumes ? Les gars, il se passe beaucoup de choses en France compliquées. On n'a peut-être pas besoin en plus de se poser ces questions-là. Que restera-t-il des mondes quand tout sera terminé ? Réponse. Les mondes naissent puisqu'ils meurent. Et Paolo Coelho, c'est Vladimir Jankélévitch.
En même temps, il y a Arnaud. C'est vrai que ce trip autour des elfes, c'est assez beau.
Hein.
Y a...
Oui, c'est...
Tu veux non, encore avoir une
c'est
dédicace
vrai, bah, c'est insistance. Cette hein? insistance à être soi, ouais, tu vois, et à assumer son désir. C'est quand même merveilleux.
Non, attends, parlons du genre, oh. C'est un genre, l'heroic fantasy. Oui, il y a des chefs-d'œuvre. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux.
Oui,
c'est
mais
un chef-d'œuvre.
De toute évidence,
même J.K. Rowling, c'est dans un genre, c'est très très réussi.
Oui,
en c'est...
oui mais là, on est, comment dire, effectivement, je suis assez d'accord. Je crois que j'ai trouvé le point commun entre elle et George Washington. Quoi. C'est clair. C'est... je me demandais depuis longtemps.
Le jardinage. Finalement,
était le point commun. Le jardinage, exactement. Et ça donne des visions. Ça donne des visions ouais. auxquelles nous, on les regarde d'un peu extérieur. Hein. C'est vrai qu'on est un peu extérieur au processus de fabrication. D'autant qu'il y a une espèce de fusion avec... on voit bien, elle a lu L'Art de la Guerre de Sun Tzu. Là, il y a une espèce de page sur la stratégie, le jeu de la guerre. On sent qu'elle est travaillée. Quoi. Il y a une patte comme ça qu'elle a essayé de mélanger des substances très, très littéraires. Je parle. Très différentes. Et que ça donne quelque chose de particulier, mais en même temps avec... moi, j'adore déjà quand il y a de la calligraphie chinoise, pour moi, c'est gagné.
Elle t'a fait une dédicace en chinois, c'est ça ?
Elle m'a fait une très belle dédicace.
Elle avait... Non, mais cela dit, elle a vécu plusieurs années au Japon.
Oui, c'est pas la Chine.
Il m'a semblé que c'était plutôt une calligraphie chinoise.
Non, mais elle a vécu au Japon.
Et... Oui, je te crois.
Oh, le débat. Le tigré est plutôt japonais que chinois, me semble-t-il.
Oui, c'est possible.
Voilà, allez, un étrange
pays. Ils ne connaissent rien, tous les deux.
Non.
Ils confondent la Chine et le Japon, c'est quand même...
Tu sais, nous, on tort. Hein. C'est donc chez Gallimard, et c'est Muriel Barbery. Après l'alcool, un peu d'eau, donc avec les porteurs d'eau. Chez POL, le nouveau roman du cinéaste et écrivain afghan de langue française, Atik Raimi. Prix Goncourt, vous en souvenez les uns et les autres quand même ?
Oui, Prix Goncourt 2008 pour Singhé Sabour.
Voilà, Singhé Sabour, Pierre de Patience. L'action de ce roman d'Atik Raimi se déroule en une seule journée. C'est le 11 mars 2001. Ce jour-là, les talibans ont détruit les deux Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan. Alors, à Paris, il y a Tom, un Afghan en exil, qui s'apprête à quitter sa femme pour aller rejoindre sa maîtresse à Amsterdam. À Kaboul, il y a un porteur d'eau, Youssef, qui risque, lui, la colère des talibans parce qu'il va à la source au lieu d'aller prier à la mosquée. Et il est amoureux, secrètement amoureux de Shirin, la femme de son frère, partie en exil. Donc deux destins parallèles, je crois que vous l'avez compris, qu'une même journée va réunir dans un livre où alternent les voix des deux personnages. Nelly.
Ah, moi, je l'ai trouvé super beau. Parce que, surtout à travers le personnage de Tom, qui conduit beaucoup, et celui de Youssef, qui porte beaucoup d'eau, mais surtout celui de Tom, parce que c'est l'exil. Voilà, il incarne l'exilé.
Qui souffre de paramnésie.
Oui, et qui ne peut pas quitter vraiment sa femme, parce qu'en même temps, ils ont fui ensemble l'Afghanistan. Il y a plein de choses qui les relient. Ils ont cette culture commune, ils ont ce pays perdu en commun. Et je trouve qu'au fond, on parle beaucoup des migrants, on parle beaucoup de ces exilés. Mais on parle très peu de ce que c'est de grandir et de vivre en France, par exemple, quand on est un émigré. Qu'est-ce que c'est ? Comment on se sent ? Est-ce qu'on se sent vraiment très différent ? Est-ce qu'on se dit qu'il faut s'intégrer ? Est-ce qu'on a peur de perdre quelque chose quand on s'intègre ? Et en fait, je trouve que ce livre m'a énormément touchée pour ces questions et surtout dans le personnage de Tom. Et je trouve la langue d'Atik Raimi absolument magnifique.
Olivia.
Mais je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Nelly, mais... J'ai dû vraiment convoquer mon grand amour pour l'Afghanistan et mon grand intérêt pour l'Afghanistan pour en venir à bout. Parce que je trouve que il y a un rythme qui est quand même assez lent et il y a quelque chose qui fonctionne pas dans la mécanique entre les deux histoires. Mmh. Et je trouve que l'histoire de Tom est vraiment passionnante, effectivement. Et qu'est-ce que c'est que d'être un exilé ? Et surtout, qu'est-ce que c'est que d'être écartelé entre la culture afghane et la culture française, qui sont antinomiques ? Il explique très bien que le langage français consiste à essayer d'être le plus précis possible, alors que toute la culture afghane consiste à enrober ses pensées pour les dissimuler. Et comment est-ce qu'on peut vivre vraiment dans ces deux cultures schizophrènes ? et sa sœur, à un moment, lui dit qu'il y a un Afghan empaillé. Donc, je trouve que tout ça est très bien, que la question que ça pose, qui est passionnante, qui est est-ce que c'est plus important, finalement, de détruire des œuvres d'art ou de détruire des humains ? Parce qu'il y a un truc qui est fou dans le livre, c'est que la première page, on vous dit que les statues des Bouddhas ont été détruites. Et la dernière, c'est deux jours après, on vous dit il y a trois faits divers en Afghanistan, au stadium de Kaboul, une femme est lapidée. Non, mais c'est tout sans rien dire. Alors voilà, la question posée est passionnante. Alors peut-être c'est pas grave de détruire des humains parce que les humains se reproduisent et parce que les œuvres d'art, elles, sont faites pour durer jusqu'à l'éternité. Donc je trouve que ce livre, il est passionnant par ce qu'il dit et en même temps, j'ai eu des soucis pour le lire.
Arnaud ?
Je suis un petit peu sur la même position qu'Olivia et aussi la tienne, Nelly, au sens, je trouve ça, il y a des très belles choses. Je crois que peut-être, moi aussi j'ai eu du mal, il a fallu que je m'accroche, tout en trouvant des choses très très belles.
Oui.
Et notamment tout ce rapport, parce qu'il y a quelque chose que j'aime bien chez lui, et je crois que c'était pareil dans son prix Goncourt, dans mon souvenir, c'est qu'il a une vision de l'exil, où contrairement à beaucoup d'écrivains exilés en France, et heureusement pour nous, nous en avons beaucoup, c'est notre force aussi, il ne chouine pas à propos de l'exil. Il n'est pas en train de dire, oh là là, c'est horrible. Non, il y a justement quelque chose de assez beau dans la manière dont il adopte la France. Voilà, il oublie d'ailleurs la langue persane et elle lui revient pour écrire une lettre de rupture. Il y a toute une idée comme ça d'une mémoire qui revient parce qu'il est en train de rompre précisément avec ses origines, d'une nouvelle fois, en quittant la femme avec laquelle il est parti, la femme afghane avec laquelle il est parti d'Afghanistan. Donc il a vécu l'exil avec elle. Et là, ça y est, il est en rupture et il va voir une autre femme à Amsterdam. Au passage, c'est là où on voit aussi l'humour d'Atik, c'est que il va dans un coffee shop à Amsterdam pour fumer de l'Afghan. Voilà, c'est une idée que je trouve très très belle.
Oui, c'est un fil rouge dans cette émission. De
non, mais c'est la vérité.
Et c'est pas fini, à mon avis, c'est pas fini.
Et voilà, je trouve qu'il y a c'est drôle, c'est vraiment amusant d'avoir eu cette idée. Quoi, voilà, et le type a fumé de la flamme.
Et petite parenthèse, le cinéaste Atik Raimi est en train de finir de tourner au Rwanda l'adaptation du roman de Scholastic Mukasonga qui s'appelle Notre-Dame du Nil, sur le génocide des Tutsis au Rwanda de 94. Et ça montre aussi son ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'il tourne comme cinéaste un sujet qui est très loin de lui, mais qui est toujours celui.
Et il a fait un film magnifique avec Goldshifte, la plus belle femme du monde.
Juste pour finir, je crois que c'est justement aussi le problème de ce livre, c'est qu'il est un peu trop scénaristique.
Peut-être.
On voit plutôt le film dans le montage parallèle entre les deux histoires. Ouais. On imagine plutôt le film que le livre.
Frédéric.
C'est pas pour tirer la couverture à moi, mais un peu quand même. J'avais écrit un des premiers articles sur Atik Raimi dans Voici, sur son premier roman.
Atik Raimi dans Voici.
Oui, c'est quand même fort, tu vois.
On dit bien Atik Raimi dans Voici.
C'était en l'an 2000.
C'est là
2000,
que soudainement la notion d'exil prend un sens.
Tu vois le truc?
Fort.
Ouais.
Waouh.
Ouais. Et attends, et le titre c'était Lee, c'est de l'Afghan. C'est pour ça que ça m'y fait penser. Et bref, c'est pour moi le. C'est compliqué de s'emparer d'un événement historique aussi grave, aussi tragique que la destruction de ces deux Bouddhas. Et il y arrive extrêmement bien parce que justement, il fait pas la grosse artillerie, mais il fait en finesse comment un événement pareil fait irruption dans la vie de ces deux personnages. Il y en a un des deux, il entend ça à la radio, tu vois, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, quand il y a un grand événement, on en entend parler à la radio ou à la télé. C'est pas, ça va pas nous toucher directement dans notre chair. Et pourtant, lui, dans son histoire, c'est aussi une partie de la culture afghane. C'est cette culture bouddhiste, toute cette histoire qui a précédé l'islam. Donc, en fait, progressivement, tu sens que cet événement terroriste complètement, atrocement bête, de détruire ces immenses statues, finit par pourrir la vie des deux personnages, changer leur vie. Et je trouve que ça, c'est extrêmement bien fait, de façon non théorique, purement sensorielle. Alors ça peut peut-être être un peu atmosphérique par moment, mais moi je trouve que d'arriver à montrer ça avec une justesse pareille, c'est prodigieux.
C'est donc Les Porteurs d'eau, c'est chez POL et c'est donc le nouveau roman d'Atik Raimi. Et pour finir, je vous ai donné un peu de travail avec quand même âme au pluriel chez Gallimard, donc la maison où dans le jardin on plante des choses, là, comme le dirait...
Un camion-citerne de LSD.
C'est donc le premier tome, donc lourd de 7 720 pages, avec lequel le romancier et philosophe Tristan Garcia, prix du Livre Inter, encore un, c'était pour 7, inaugure donc une trilogie épique qui m'a fait un peu penser au Mahabharata sur l'histoire de la souffrance à travers les siècles. Je dis bien l'histoire de la souffrance. 4 âmes, successivement animales et humaines, voyagent au néolithique, en Mésopotamie, à travers la Méditerranée, à l'âge de bronze, dans la Chine ancienne, des Wu, sous l'Empire romain, dans le royaume indien ou au beau milieu du désert australien, des âmes de condamnés, de vaincus, d'oubliés, des âmes qui meurent, qui reviennent. Âmes, attention, elles sont matérielles, hein, c'est pas des âmes, faut pas les prendre au sens religieux. Bref, l'éditeur, l'ami de Frédéric, vante un foisonnant roman d'aventure pour notre époque, une légende dorée de notre monde adressée au temps futur. Qu'en penses-tu, Frédéric ?
C'est une punition. Tristan Garcia est un écrivain, on lui avait donné le prix de Flore il y a 10 ans pour son premier livre, La meilleure part des hommes, qui était excellent.
C'était sur,
comment raconter les années 80 à travers la rivalité entre l'estrade et du stand, transformé en personnage, bien sûr, c'était de la fiction, mais c'était vraiment très très adroit et hyper bien fait. Mais là, alors bon,
il vient de Toulouse, je le rappelle.
Malheureusement, il a eu le prix du Livre Inter après, et je pense que c'est la faute à France Inter. Il faut pas l'encourager dans ces espèces d'énormes épopées, puisque il y avait déjà sept romans enchâssés les uns dans les autres. Il fallait pas
c'est
l'encourager
magnifique.
À faire ça.
C'était un seul volume, hein.
Oui, oui, bien sûr. Mais là, si vous voulez, ça devient de la graphomanie pour moi. C'est très enflé, très pompeux. Quitte à lire l'épopée de Gilgamesh, lisons l'épopée de Gilgamesh, ou le Mahabharata, ou le Ramayana, allons voir ces récits merveilleux, mais là, franchement, le refaire, là, je n'ai pas du tout, moi, j'ai pas compris. Alors, il y a beaucoup de personnages tout nus, qui baisent avec des princesses, des reines, ou des prostituées, donc ça, c'est pas mal. Mais en dehors de ça, j'ai pas. Franchement, je ne comprends pas ce projet. J'ai noté une phrase qui est sur un ver de terre au début. Il ne chie pas, il absorbe. Je me suis dit, au fond, c'est peut-être le résumé du projet.
Le lisant, j'ai appris quand même. J'ai dû le savoir, mais j'avais un.
Le ver n'a pas d'anus.
Que le ver n'a pas d'anus.
Je te connais par cœur.
Voilà.
Je dirais que tu as parlé d'une épopée des vaincus.
Les vaincus n'ont pas d'anus.
C'est un normalien, Tristan Garcia. Il y a un autre normalien qui a essayé d'écrire des romans qui durent 2 milliards d'années comme ça. C'est Jean d'Ormesson. Finalement, il refait du Jean d'Ormesson.
Ah oui, ça, je suis d'accord.
Jean d'Ormesson, ça commence avec le Big Bang et ça se termine hier matin.
C'est vrai.
Et là, c'est un
petit
peu la même
chose.
Jean d'Ormesson est entré dans la
Pléiade. Sauf qu'il n'aurait jamais choisi la souffrance comme thématique. Jamais.
Non, c'était plutôt le plaisir. Oui. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que je préfère Jean d'Ormesson à Tristan Garcia.
Nelly, je te sens un peu...
Non, je ne suis pas du tout d'accord avec Frédéric.
Outré.
Enfin, on a aimé le même livre, au moins, de Tristan Garcia. C'est déjà bien.
Le premier.
Le premier. Et puis, moi, j'ai continué quand même à l'aimer, Tristan Garcia. J'ai aimé qu'il devienne aussi philosophe, qu'il écrive un livre sur les séries. C'est un obsédé des séries télé.
Oui, mais là, on parle d'âme, Nelly.
Oui, mais j'y viens, mon cher Jérôme. Tout est pesé. Je ne parle pas à tort et à travers, comme ça. Tu sais bien. Vos références, c'est Jean d'Ormesson. Moi, c'est Game of Thrones. Et je suis sûre que Tristan Garcia aussi, c'est un Game of Thrones littéraire. Enfin, il y a sans arrêt des batailles, il y a sans arrêt de l'héroïque fantasy. Alors, c'est vrai que quand je l'ai reçu au départ, je me suis dit, ça pèse 10 kilos, ça n'est que le volume 1, ça s'appelle Âme, et en plus, une histoire de la souffrance. J'ai feuilleté un peu au début, j'ai vu cette histoire de petit ver qui se balade, qui ne chie pas, qui n'a pas d'yeux, qui n'a pas de trou de balle. Je me suis dit, non, ce n'est pas pour moi. Je me suis débarrassée sur un pigiste. Léonard Biot, mon héros aux Inrocks.
C'est dégueulasse.
Mais oui, c'est dégueulasse.
On va te dénoncer à l'inspection du travail.
Il m'a convaincu. Non,
j'espère qu'il porte un gilet jaune, lui.
Il a adoré. Et du coup, je l'ai lu. Enfin, j'ai surtout lu à cause de Jérôme qui l'a mis en main. Et j'ai adoré, moi aussi. Je trouve ça, mais c'est complètement, il réussit un exercice qui s'appelle d'être postmoderne, finalement. On a très peu d'écrivains, il y en a beaucoup aux États-Unis, on en a très peu en France, qui est de faire une sorte de carambolage entre toute l'histoire littéraire, entre toute l'histoire spirituelle, entre toute l'histoire romanesque, entre toute l'histoire mythologique, et il arrive à faire son propre truc, qui est pour moi absolument réussi. Et je trouve qu'il y a des passages, par exemple la déesse, je crois qu'elle s'appelle Eanema, au début, enfin au milieu, qui au fond fait l'amour, mais à travers
ses ah oui, elle délègue, ça c'est pas mal. J'ai trouvé ça pas mal.
C'est sublime, c'est sublime.
La taylorisation du sexe.
Bravo, bravo.
Non, mais c'est vrai, elle délègue chaque partie du corps à d'autres esclaves.
Mais je trouve ça, c'est pas mal. Il y a plein d'idées comme ça qui sont absolument magnifiques. Et moi, j'ai adoré ce livre. Et pour moi, c'est Game of Thrones, encore une fois.
Olivia.
Moi, j'aime tous les livres de Tristan Garcia. J'adore le gars. Je pense que c'est de loin le garçon le plus doué et le plus brillant de toute sa génération.
Oui.
Après, il fait partie pour moi des auteurs comme Salman Rushdie, par exemple, dont j'adore lire les interviews sur ce livre. Elles sont extrêmement brillantes. J'adore l'idée du projet de faire l'histoire du monde au travers des vaincus, au travers des âmes, au travers de la souffrance. J'ai commencé en me disant que le garçon, il avait mis 10 ans à écrire le livre, que donc c'était un sacrilège de le lire en 10 jours. Donc j'ai commencé vraiment par petits morceaux. J'ai bien aimé le début. Moi, j'ai bien aimé le vers. Mm-hmm. Après, vous avez oublié de mentionner qu'il y a un chapitre assez dément, je trouve, sur un mammifère. Donc on ne sait pas plus que c'est un mammifère, mais un mammifère enceinte. Et il y a des pages sur la chasse que j'ai trouvées géniales. Après, j'ai adoré le chapitre sur la femme de Néandertal, également enceinte, accoucher de jumeaux.
Ah oui.
Et il raconte le déchirement du corps. Il y a un truc que j'ai adoré dans ce début du livre.
La souffrance, ouais.
Après, j'ai commencé à avoir un petit peu plus de mal avec les jumeaux, je dois dire.
Ah non, il est bien aussi.
Oui, moi, j'aime bien.
Ça
les jumeaux,
va encore. Ouais. Les jumeaux, ça va encore.
Ouais.
Il y a la
vous
déesse.
Suivez. Vous suivez quand on parle comme ça, entre
les
deux
chinois,
des jumeaux.
Les deux chinois dans la forêt, t'as aimé?
Je me suis perdue avec les chinois.
Ah. Non, mais
là,
ne l'encouragez pas.
Je me suis perdue avec les chinois. Je dois dire que...
Ne l'encouragez pas. Ce garçon a du talent. Il n'est pas désespéré. Il faut le faire revenir.
Non, mais en même temps, je pense que c'est très bien pour qui aime les épopées. Mais Frédéric et moi, on est trop citadins. Je sais pas.
Allez, quelques mots d'Arnaud.
Mais d'abord, je voudrais dire, j'étais très fier des auditrices et des auditeurs de France Inter qu'ils aient remis leur prix à 7, qui est un livre que je trouve absolument merveilleux, avec la dernière histoire qui se démultiplie 7 fois. C'est juste un très grand livre. Et ces auditeurs et ces auditrices sont d'autant plus méritants que la critique a été extrêmement sévère par rapport avec ce livre, comme elle l'est souvent avec Tristan Garcia d'ailleurs. Et là, il est philosophe, Tristan Garcia, en plus d'être romancier, mais c'est un inventeur d'histoire. C'est ça qu'il aime faire, c'est inventer des histoires. Et il faut imaginer Michel Foucault romancier. C'est-à-dire que là, son histoire de la souffrance, c'est un peu l'équivalent de l'histoire de la folie. Parce que ce que vous ne dites pas, c'est que ces histoires, par ailleurs, il y a une bibliographie à la fin de ce premier volume qui prouve que tout est documenté. C'est-à-dire qu'il raconte ça, mais ça ne sort pas et qu'il lit des thèses publiées en anglais dans les universités américaines ou anglaises, l'histoire de l'odorat, l'histoire de l'odorat au Néandertal. Vous voyez le genre de thèse quand même assez pointue. Il y a des histoires absolument merveilleuses. C'est que l'histoire du ver de terre, c'est qu'il raconte la souffrance d'un ver de terre depuis le point de vue d'un ver de terre, comme il va raconter ensuite
une
noiselle.
Ça change tout parce que sinon,
point de vue du ver de terre. Ben oui, non, c'est pas un narrateur parce que
d'où il connaît la souffrance du ver de terre?
Il a lu
en tant qu'être humain,
il a lu des thèses en japonais sur le ver de terre.
Et après, il raconte comment une noiselle se fait baiser et puis tuer par un prédateur. Du point de vue de l'oiselle.
T'avais la guerre du feu, c'était très bien la guerre du feu.
La guerre du feu
de Ronnie Aîné.
Ah oui.
La guerre du feu de Ronnie Aîné, voilà, grand livre sur le même sujet.
L'épisode de la femme Néandertal qui.
Arnaud, tu le conseilles donc?
Il restitue la conscience, ou le peu de conscience.
Il faut avoir deux mois de mensoir, on n'est pas obligé de le lire en entier en 15 jours, comme nous.
Mais je ne sais pas si vous avez compris, il y a toute une histoire de couleurs.
L'émission se termine. Âme, c'est donc Tristan Garcia, c'est chez Gallimard, et c'est le premier volume. Allez, un conseil pour terminer cette émission, Nelly.
Alors, de Capucine et Simon Johannin, Nino dans la nuit, chez Alia, et pour moi c'est un des 10 meilleurs romans de la rentrée, sinon un des 3 meilleur roman de la rentrée. C'est absolument génial. Simon Johanna, on l'avait repéré en 2017, toujours chez Alia, avec L'été des charognes. Et là, il revient avec sa femme qui est photographe. Ils écrivent à deux et il plonge un personnage, Nino. Enfin, c'est une grande histoire d'amour. Nino, très amoureux d'une jeune femme. Tous les deux précaires. Il me semble que c'est à Paris, d'ailleurs, j'oublie. Mais en tout cas, c'est dans la grande banlieue aussi. Et on voit comment à chaque fois, ils vont flirter avec l'illicite. Il y a des pages sur comment voler dans les supermarchés. C'est constamment contemporain. C'est sublimement bien écrit. Enfin, c'est une mix. Écoute, oui, je voudrais demander à Tristan Garcia. Tu sais, rien n'est simple. Non, c'est magnifique.
Et c'est chez
magnifique.
Alia. Chez Alia. Conseil de Frédéric.
Comme à la guerre de Julien Blangras, c'est chez Stock.
Il y a un chouchou du masque.
Ah oui, c'est vrai.
Ah oui, ça, on l'a toujours.
Je trouve
toujours
que
chouchouté.
Ce garçon, qui au départ drôle. Était plutôt un écrivain voyageur, qui faisait des reportages de voyage et tout, maintenant, il a eu un enfant et il parle très très bien de la paternité. Je trouve que c'est très drôle, très bouleversant. Et surtout, cette idée folle d'avoir donné la vie dans un monde pareil, ça ne cesse de l'obséder. Mais est-ce que je suis un égoïste de m'être reproduit alors qu'il y a les attentats en 2015, alors qu'il y a une planète qui se réchauffe et qui devient folle. Et voilà, donc c'est très juste, très touchant, c'est sans prétention. Et vraiment, Julien Blangras est en train de devenir un écrivain très important. Ouais. Voilà. Ouais. Ça s'appelle « Comme à la guerre » chez Stock.
Mon conseil, c'est un tout petit livre qui paraît chez Grasset, qui s'appelle « Le procès du cochon ». Du jeune et excellent Oscar Kupfan, d'ailleurs, qui avait eu, je crois, le prix de Flore pour Zénith Hôtel, qui est un très bon livre. Bref, il actualise un fait divers du XIVe siècle, qui aurait pu d'ailleurs être dans le bouquin de Garcia, quand un procès fut intenté à Falaise, en Normandie, la Normandie du personnage de Houellebecq, à une truie qui avait bouffé le visage et l'épaule d'un nourrisson, et cette truie a été condamnée à être pendue. Et l'histoire est tout à fait vraie. Hein. On l'a même habillée en femme, pour l'humaniser avant de la
c'est
prendre.
Sympa.
Bref. Et Kupfan imagine cette femme, mais à l'époque,
c'est balance ton porc.
Pente à truie.
Et donc, le clou du livre étant la parodie de justice, où évidemment, elle est assistée, le cochon est assisté d'un avocat. Il faut dire, elle n'a pas grand chose à dire. Mais c'est, là, tout d'un coup, on est dans du Ionesco, dans du Jarry, et c'est formidable. Le procès du cochon, c'est Oscar Kupfan, et c'est chez Grasset. Le conseil d'Olivia.
Mes vies secrètes de Dominique Bonnat. Elle raconte comment elle a écrit ses biographies. Elle revient sur des personnages géniaux et elle fait un portrait de Simone Gallimard, que je n'ai malheureusement pas connue, qui était la patronne du Mercure de France et qui s'était mis en tête d'obtenir le prix Interallié pour le deuxième roman de Dominique Bonnat, qui avait donc été voir un mage pour qu'elle obtienne le prix. Et elle avait demandé à Dominique Bonnat de mettre une photo du mage posée sur son corps. Donc Dominique Bonnat, qui est pourtant une personne assez rationnelle, raconte qu'elle avait installé la photo du mage dans la jarretière de son bas le matin de l'Interallié et qu'elle a ainsi reçu le prix. Ce portrait de Simone Gallimard...
Il faut
en
tirer une morale ou non ?
Oui, il faut aller voir des mages. Voilà. Non, parce qu'après, le mage s'est retourné contre Simone Gallimard et c'est pour ça qu'elle a été malade. C'est formidable.
Il est très étonnant, le livre, c'est vrai. Formidable. Ça commence par elle, à poil sur un yacht.
Parce qu'elle est à la recherche de Simone...
De Romain Gary.
Exactement. C'est chez Gallimard et elle n'a pas du tout pris de LSD. Elle, c'est très, très bien.
Allez, Arnaud, pour finir.
Histoire de ta bêtise de François Bégodeau. C'est un essai.
Un Bégodeau ?
Oui, mais un essai cette fois. Pas du tout un roman. Histoire de ta bêtise. Alors, les écrivains se sont toujours attaqués aux bourgeois, de Molière en passant par Flaubert, évidemment. Et donc là, Bégodeau fait un livre anti-bourgeois où... Voilà, il démonte le bourgeois, comme on dit. Il le décrit, il s'adresse à lui, parce que c'est histoire de ta bêtise. Il lui montre combien il est bête. Et c'est un livre vraiment de lutte des classes, dans la grande tradition des écrivains, qui sont les seuls aujourd'hui à s'occuper vraiment de la lutte des classes. Parce que je pense à ce livre de Nathalie Quintane qui s'appelle « Que faire des classes moyennes », qui est un très grand livre chez POL. Et là, on est dans le même sujet, mais là, c'est donc le bourgeois. Je pense qu'on va pas mal en parler.
Et c'est chez qui, Arnaud, le Bégodeau ?
C'est chez Pauvert.
Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Olivia de Lamberterie, Nelly Capriélian, Frédéric Becbédé, Arnaud Vivian pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir au théâtre de l'Alliance française, à la technique, Et je les remercie. Il y avait Marie Le Peintre, Laetitia Delgado, ainsi que Stéphane Touvenin. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, il aura lieu le jeudi 24 janvier dans ce même théâtre de l'Alliance française 101 Boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de films. À dimanche prochain sur France Inter, évidemment.